Bonjour, je m'appelle Sabine Padeloup et vous êtes en train d'écouter le podcast du Bonheur des Arts, la plateforme de cours en ligne en histoire de l'art et du luxe. Dans deux jours, nous entrerons dans une phase de déconfinement. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il va se passer à partir du 11 mai, comment sera l'après. Mais cette première phase va permettre à des personnes de se retrouver, de se promener quand elles le veulent sans remplir d'attestation, et même de se rendre dans certains musées. Car oui, les petits musées vont pouvoir rouvrir leurs portes ce mois-ci. Et nous espérons que les autres musées, notamment les plus grands, feront la même chose au fur et à mesure durant l'été, sauf si l'évolution de la crise sanitaire implique le contraire. Je dois vous avouer que j'ai hâte de retrouver les salles de musées. J'ai hâte pas uniquement parce que je suis historienne de l'art, mais aussi parce que l'époque dans laquelle je vis est devenue hyper esthétique. Bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de l'Appel de l'Art. Tout au long de cette émission, nous avons remonté le temps dans le but de comprendre l'évolution de notre rapport à l'art. Nous avons vu les différents âges mis en avant dans l'introduction de l'ouvrage « L'esthétisation du monde, vivre à l'âge du capitalisme artiste » coécrit par Gilles Lipovetsky et Jean Seroy en 2013. Les auteurs évoquent ainsi ces quatre âges que sont l'artialisation rituelle, l'esthétisation aristocratique, l'esthétisation moderne du monde, et enfin le dernier âge que nous allons voir aujourd'hui, transesthétique actuelle, ou plus simplement l'art pour le marché. En effet, nous avons vu que le marché de l'art se met véritablement en place entre la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle. Des artistes comme Marcel Duchamp critiquent cette transformation de la société, tandis que d'autres l'approuvent. L'idée ici n'est pas de dire dans quel camp nous nous trouvons, mais de voir comment le secteur artistique a évolué. Nous sommes dans un monde où l'art et sa valeur est au cœur des préoccupations. L'art peut être un investissement extrêmement rentable de nos jours. Le phénomène que je trouve particulièrement intéressant est que l'avant-garde est désormais intégrée dans l'ordre économique. Elle était critiquée et considérée comme en dehors du système au 19e et 20e siècle. Mais ce n'est plus le cas. Il existe encore une forme de réticence ou d'incompréhension de la part du grand public face à l'avant-garde. Mais cette méfiance n'est pas du fait du système. L'avant-garde est maintenant acceptée et soutenue par les instances officielles. Plus que ça, elle est même voulue. Nous sommes entrés dans l'ère du capitalisme artiste, là où les phénomènes esthétiques relevant de l'avant-garde ne sont plus marginaux et ne sont plus établis en périphérie des institutions. Ils font partie des institutions. Et ces artistes sont soutenus par d'immenses marchés façonnés par des géants économiques internationaux puissants. Aujourd'hui, de grands noms du secteur du luxe sont indéniablement liés au monde de l'art, comme François Pinault et Bernard Arnault. On parle dans leur cas d'hyper-collectionneurs. Ces deux exemples sont à rattacher à la France, mais il faut bien prendre en compte que ce phénomène est mondial. L'art et son marché se sont déployés au-delà des frontières, pour le meilleur et pour le pire. Le web a également brouillé les frontières. Nous pouvons suivre des ventes en ligne d'un autre pays. Nous pouvons acheter des œuvres sur des sites de vente d'art en ligne. Et plus étonnant, ces phénomènes esthétiques relevant de l'avant-garde sont d'ailleurs parfaitement intégrés au système de production, de commercialisation et de communication des biens matériels. Ce triomphe du marché de l'art n'aurait pas été possible sans une esthétisation de notre société de consommation. N'avez-vous pas remarqué à quel point le beau est partout? Il doit être partout. Notre univers est devenu esthétique et parfois au détriment de la fonctionnalité, ce qui est plus dommageable. Mais c'est un autre débat. Ce qui est fascinant, je trouve, dans notre quotidien, c'est que l'art se veut omniprésent et parfois sous des formes étonnantes. Les spectacles, les styles, les tendances, la mode, la décoration, les publicités, les objets du quotidien, etc. L'art est partout, et avouons-le, nous aimons ça. Tout doit être beau, tout doit nous plaire, les images sont omniprésentes. Comme le disait Guy Debord dans les années 60, nous sommes une société du spectacle. Nous avons besoin de voir des choses plaisantes et de vivre des choses plaisantes. Évidemment, l'art y trouve sa place parce que nous aimons être stimulés par de belles choses et de belles images. Cela a une incidence sur la fabrication de biens industriels.
Les stratégies esthétiques à fin marchande se sont généralisées dans tous les secteurs des industries de consommation. L'art légitime désormais les marques et elles savent très bien utiliser le potentiel de l'art dans la création de produits et plus largement dans leur stratégie de communication. L'art est partout. Vous n'avez qu'à regarder l'importance de l'art actuel dans les créations des maisons de luxe, que ce soit dans la mode, les bijoux ou même les pubs. Les grandes maisons savent utiliser l'art. Il s'agit d'un mariage d'amour et de raison. Et partout, nous voulons du beau, avouons-le. Nous préférons acheter des vêtements que nous trouvons beaux. Nous préférons voir de belles publicités que des images triviales, sans force esthétique, sans souci de composition, sans jeu de lumière. Une publicité moche ne plaît pas au sens. Il faut nous faire rêver. Et comme le disait le designer Raymond Levy, la laideur se vend mal. Et du coup, la laideur est devenue un moyen de critiquer la société du beau. De nombreux artistes exploitent avec force la laideur pour nous forcer à nous questionner sur la société, qu'il s'agisse de peintres, de sculpteurs ou de groupes de musique. En effet, tandis que des artistes comme Jeff Koons ou Takashi Murakami utilisent des couleurs pop et des signes mignons et positifs, d'autres comme Damien Hirst ou Marilyn Manson utilisent des couleurs froides, sombres, ainsi que des signes triviaux, négatifs, voire glauques, pour questionner notre société et notre manière de la légitimer. Damien Hirst est d'ailleurs un exemple très intéressant pour comprendre comment la construction de la cote de l'artiste peut être faussée par l'artiste lui-même. Je vais vous raconter brièvement l'histoire de la vente de l'œuvre For the Love of God. Il s'agit d'une réplique d'un crâne humain du XVIIIe siècle possédé par l'artiste. Il fait une réplique donc de ce crâne et le fait recouvrir de 8601 diamants. Cela fait rêver, hein ? L'œuvre exposée dans une galerie a été vendue en 2007 pour 100 millions de dollars. À cette époque, c'est un record pour l'artiste. L'acquéreur n'est autre qu'un consortium de personnes restées anonymes, mais pas toutes. Parmi les membres, il y a Damien Hirst lui-même. L'artiste a ainsi contribué à sa cote, ce qui est incroyable quand on y pense. La comparaison entre Hirst et Duchamp n'est pas incongrue dans le cas présent. Tous deux titillent le système pour le critiquer. Et au final, on les proclame grands artistes de leur temps et on les collectionne. La grande question que l'on se pose désormais dans le monde de l'art, c'est qui sera le plus créatif ? Et de ça découlent d'autres questions. En qui faut-il investir ? Qui mettre en avant ? Comment construire la cote d'un artiste que l'on apprécie ? Cela en devient presque anxiogène pour certains grands collectionneurs, pour les grandes galeries, et pour certaines institutions telles que les FRAC et les musées. Pourquoi ? Notamment parce que la plus grande crainte, c'est de louper le Van Gogh du XXIe siècle. On ne veut plus faire les mêmes erreurs. On ne veut pas que les génies de notre siècle soient reconnus deux siècles plus tard, car ce serait trop tard pour nous et pour l'artiste. Nous devons être en mesure de reconnaître ces talents d'aujourd'hui pour les aider et pour les encourager à produire. Je vous rappelle que des artistes du 19e comme Manet, complètement découragés, ont détruit leurs œuvres, ou que d'autres comme Van Gogh n'ont produit que pendant une courte période de leur vie. L'art est devenu hyper-art. Il y avait les collectionneurs, les galeries, et il y a aussi désormais les hyper-collectionneurs et les hyper-galeries. La question de la surabondance a mis en avant certaines personnalités et certains établissements. L'une des conséquences de cette problématique est l'inflation esthétique. Nous vivons ainsi le stade stratégique et marchand de l'esthétisation du monde. Quel sera le prochain ? Est-ce que le marché va être de plus en plus puissant ? Est-ce que les nombreuses propositions créatives individuelles que nous voyons émerger via les réseaux sociaux vont modifier le secteur artistique ? Il y a également des productions intrigantes, mais non moins révélatrices, faites par des animaux et que l'on achète, comme celle du cheval Métro ou du chien Dagger. Et qu'en est-il des productions de ce que l'on nomme intelligence artificielle ? Nous sommes en phase d'un re-questionnement de l'identité du créateur, qu'il soit humain ou non, réel ou virtuel. Et n'oubliez pas que c'est aussi ça le rôle de l'art et de l'histoire de l'art, poser des questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce 7e et dernier épisode de notre émission L'Appel de l'Art. Mais je vous rassure, ce n'est pas la fin du podcast. Je reviendrai prochainement avec une nouvelle émission. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le autour de vous. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à découvrir notre site internet bonheurdesarts.com. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle émission consacrée à l'histoire de l'art et à son rôle dans la société.